Il est 2 heures du matin. Je ne puis dormir. Il faudrait cependant que je puisse me reposer afin que ma main ne tremblât pas demain. Du reste, il est difficile de manquer son coup à 6 pas. Ah, monsieur Grouchnitsky, croyez-le, votre mystification ne vous profitera point. Nous changeons de rôle. À moi de lire sur votre pâle figure les traces de votre frayeur. Pourquoi avez-vous fixé vous-même cette fatale distance de 6 pas? Vous pensez peut-être que je vous abandonnerai ma tête sans la défendre? Mais nous tirerons au sort, et alors? Alors, si le bonheur le sert, si mon étoile me trahit? Qu'importe, elle a servi assez longtemps mes caprices. Eh bien quoi? Mourir? Mourir ainsi? C'est une bien petite perte pour le monde. Et puis je m'ennuie bien. Je ressemble à un homme qui bâille dans un bal et ne va pas dormir parce que sa voiture n'est pas là. Mais la voiture est prête. Adieu. Je parcours avec le souvenir tout mon passé et je me demande involontairement pourquoi ai-je vécu. À quoi étais-je destiné en naissant? Ah, sûrement j'avais un but à atteindre. J'étais appelé à un sort élevé, car je sens en moi des forces immenses. Mais je n'ai point compris ma destinée, et je me suis laissé entraîner par l'appât des passions viles et ingrates. Du milieu de leurs flammes, je suis sorti pur et froid comme le fer, et j'ai perdu pour toujours l'ardeur des nobles enthousiasmes, la fleur par excellence de la vie. Et depuis ce jour, que de fois, dans les mains du destin, ai-je rempli le rôle de la hache. Comme le glaive de l'État, j'ai abattu des têtes sacrifiées, souvent sans méchanceté, toujours sans pitié. Mon amour n'a jamais rien sacrifié pour ce que j'aimais. J'ai aimé pour moi-même, pour mon plaisir personnel. Je n'ai satisfait que les étranges besoins de mon cœur avec cette fureur qui engloutit le sentiment et la tendresse, la joie et la douleur. Et je n'ai pu me rassasier. J'étais comme un homme mourant de faim, que son affaiblissement assoupit et qui voit alors devant lui des mets somptueux et des vins généreux. Il dévore avec fureur les présents insatiables de son imagination, et il lui semble qu'il est soulagé. Mais à son réveil, le rêve s'évanouit. La faim est là qui redouble et derrière elle, le désespoir. Et peut-être demain je mourrai. Il n'y a pas en ce monde un seul être qui m'aura compris entièrement. Les uns me croient meilleurs, les autres plus mauvais que je ne le suis réellement. Les uns diront « c'était un brave garçon ». Les autres, un homme de rien. Et l'un et l'autre de ces termes sont faux. Ah, quel ennui que de vivre! On vit tout de même, par curiosité. On attend quelque chose de nouveau. C'est ridicule et absurde. Voilà déjà un mois et demi que je suis dans la forteresse de N. Maxime Maximitch est parti pour la chasse. Je suis seul, assis auprès de la fenêtre. Des nuages gris couvrent les montagnes jusqu'à leur base. Le soleil, à travers les brouillards, ressemble à une tache jaune. Il fait froid. Le vent siffle et secoue les volets. C'est ennuyeux. Je vais continuer mon journal interrompu par des événements étranges. Je relis ma dernière page. C'est ridicule. Je croyais mourir, mais c'était impossible. Je n'avais pas encore épuisé le calice de la souffrance. Et maintenant, je pense que je vivrai encore. Longtemps. Comme tout le passé est clair et profondément gravé dans ma mémoire, le temps n'en a pas effacé le moindre détail. Je me souviens que dans la nuit qui précéda le duel, je ne pus dormir une minute, et à peine pus-je écrire quelques instants. Une inquiétude secrète me dominait. Après m'être promené une heure dans ma chambre, je m'assis et ouvris un roman de Walter Scott placé sur ma table. C'était « Les Puritains d'Écosse ». D'abord, je dus faire des efforts pour lire, puis, charmé par ces fictions enchanteresses, je m'oubliai. Enfin, le jour parut. Mes nerfs s'étaient calmés, je me regardais dans une glace. Une pâleur sombre couvrait mon visage et révélait les traces d'une douloureuse insomnie. Mais mes yeux, quoique cerclés profondément, brillaient d'un éclat effrayant. Je fus content de moi. J'ordonnai de seller mon cheval, m'habillai et courus au bain. Je me plongeai dans une cuve d'eau de narzana froide, puis bouillante, et je sentis mes forces physiques et morales me revenir. Je sortis du bain frais et vigoureux, comme si j'allais au bal. Après cela, dites que l'âme ne dépend pas du corps. En rentrant chez moi, je trouvai le docteur. Il était en pantalon gris, en harcalouc, un pardessus circassien, avec un chapeau circassien aussi. J'éclatai de rire en voyant cette petite figure sous cet énorme chapeau de fourrure. Son visage n'avait pas le moins du monde l'air belliqueux, et en ce moment il me parut encore plus petit qu'à l'ordinaire. « Pourquoi êtes-vous si triste, docteur? Est-ce qu'il ne vous est pas déjà arrivé 100 fois d'accompagner des hommes hors de ce monde avec la plus parfaite indifférence? Imaginez-vous que j'ai la fièvre jaune et que je puis mourir, comme je puis revenir à la santé, l'un et l'autre sont dans l'ordre des choses. Efforcez-vous de me considérer comme un homme atteint d'une maladie que vous ne connaissez pas bien encore, et cela excitera votre curiosité au plus haut degré. Vous pouvez dès maintenant faire sur moi d'intéressantes observations physiologiques. L'attente d'une mort violente n'est-elle pas elle-même une maladie réelle ? Cette idée frappa le docteur et il devint plus gai. Nous montâmes à cheval, Werner se cramponna aux rênes de ses deux mains et nous partîmes. En un clin d'œil, nous traversâmes au galop la forteresse, le petit village, et nous entrâmes dans le défilé au milieu duquel un sentier serpente parmi les grandes herbes, coupé à chaque instant par des ruisseaux bruyants qu'il fallait passer à gué, au grand désespoir du docteur, car son cheval s'arrêtait chaque fois dans l'eau. Je ne me souviens pas d'un matin plus bleu et plus frais. Le soleil montait à peine au-dessus des sommets verdoyants, et le mélange de la chaleur et de ses premiers feux à la fraîcheur mourante de la nuit répandait dans tous mes sens une suave langueur. La gaieté lumineuse du jour n'avait pas encore pénétré au fond du défilé. Il dorait à peine les pointes des rochers qui se tordaient de tous côtés sur nos têtes. Les arbustes qui s'échappaient de toutes les fissures du roc, agités par la brise du matin, nous arrosaient des gouttelettes argentées de la rosée nocturne. Je me souviens qu'en ce moment, j'aimais la nature plus que je ne l'avais aimée jusqu'alors. J'observais avec curiosité chaque goutte de rosée tremblant sur une large feuille de vigne, réfléchissant 1000 rayons divergents. Avec quelle avidité mon regard tâchait de plonger dans les lointains vaporeux. Là, tout chemin paraissait plus étroit, les rochers plus bleus et plus effrayants, et semblaient enfin former des murs infranchissables. Nous marchions en silence. « Avez-vous écrit vos dernières volontés ?» me demanda soudain Werner. « Non. Et si vous êtes tué ? On trouvera mes héritiers tout de même. » « Il est impossible que vous n'ayez pas quelque ami à qui vous ayez envie d'envoyer un dernier adieu. » Je secouai la tête. « Il est impossible qu'il n'y ait pas dans le monde quelque femme à qui vous désiriez laisser quelque souvenir. Voulez-vous, docteur, que je vous ouvre mon âme? Je ne suis plus, voyez-vous, à cet âge où l'on meurt en prononçant le nom de sa bien-aimée, et en léguant à un ami une mèche de ses cheveux pommadés ou non pommadés. En songeant à une mort prochaine et possible, je ne pense qu'à moi. Quelques-uns ne font pas même cela. Les amis qui demain m'oublieront, ou peut-être ce qui est pire, répéteront sur mon compte Dieu sait quelle fausseté, Les femmes qui, en embrassant leur nouvel amant, riront de moi, afin de ne pas le rendre jaloux du pauvre défunt, que Dieu soit avec eux. Au milieu des orages de la vie, voyez-vous, j'ai recueilli quelques idées, pas un sentiment. Et depuis longtemps, je ne vis que par la tête et non par le cœur. J'examine, j'analyse mes propres penchants et mes actions avec une scrupuleuse curiosité, mais sans partialité. Il y a en moi deux hommes, l'un qui vit dans toute l'acceptation du mot, l'autre qui pense et qui juge le premier. Peut-être dans une heure, le premier vous dira à Dieu, ainsi qu'à l'univers. Le second. Regardez donc, docteur, sur le rocher à droite. Ce sont nos adversaires, je crois. Nous nous élançâmes. Au pied des rochers, trois chevaux étaient attachés à des arbres. Nous attachâmes les nôtres également, et au bout d'un sentier étroit, nous découvrîmes une petite place sur laquelle nous attendait Groutchnitsky, le capitaine des dragons, et un autre second appelé Ivanov Ignatievitch. Je n'avais jamais entendu parler de sa famille.
« Nous avons attendu depuis longtemps déjà, » me dit le capitaine avec un sourire ironique.
Je tirai ma montre et la lui présentai. Il s'excusa en disant que la sienne avançait. Quelques minutes de pénible silence s'écoulèrent. Le docteur le rompit enfin en s'adressant à Groutchnitsky.
« Il me semble, » dit-il, « que vous vous montrez tous les deux prêts à vous battre et à satisfaire aux lois de l'honneur. Mais vous pourrez peut-être mieux faire en vous expliquant et en arrangeant la chose à l'amiable.
« J'y suis disposé, » lui dis-je. Le capitaine fit à Groutchnitsky un signe de l'œil qui semblait dire que j'avais peur. Celui-ci prit alors un air arrogant, quoique jusqu'à ce moment une pâleur profonde eût couvert ses joues. Depuis que nous étions arrivés, c'était la première fois qu'il levait les yeux sur moi. Mais dans son regard, on lisait une certaine inquiétude qui trahissait son trouble intérieur.
« Expliquez vos conditions, » dit-il, « et tout ce que je pourrais faire pour vous, soyez persuadé que... »«
Voici mes conditions. Vous rétracterez aujourd'hui en public vos calomnies et vous me ferez des excuses. »«
Mon cher monsieur, je m'étonne que vous osiez me proposer de semblables choses. »«
Mais que puis-je vous proposer hormis cela ?»
Nous nous battrons.
Je haussai les épaules.
Je vous en prie, avez-vous bien réfléchi à ceci que l'un de nous sera infailliblement tué?
Je désire que ce soit vous.
Moi, je suis certain du contraire.
Il se tut, rougit et partit d'un éclat de rire forcé. Le capitaine le prit par le bras et le tira à l'écart. Ils causèrent longtemps à voix basse. J'étais arrivé avec l'esprit assez calme, mais je commençais à sentir l'irritation s'emparer de moi. Le docteur vint à moi.
« Écoutez, » me dit-il avec une inquiétude visible, « vous avez sûrement oublié leur complot. Je ne sais pas charger des pistolets, mais dans cette occasion, vous êtes un homme étrange. Dites-leur que vous connaissez leurs intentions, afin qu'ils n'osent pas, mais quelle idée! Ils vous tueront comme un oiseau. »
« Je vous en prie, tranquillisez-vous, docteur, et laissez-moi faire. J'arrangerai tout de manière qu'il n'y ait aucun avantage pour eux. Laissez-les chuchoter. »«
Messieurs, leur dis-je assez haut, cela devient ennuyeux. S'il faut se battre, battons-nous. Vous avez eu le temps de vous concerter hier. »«
Nous sommes prêts, » répondit le capitaine. « Placez-vous, messieurs. » « Docteur, veuillez mesurer les 6 pas. »«
Placez-vous, »
répéta d'une voix de fossé Ivan Ignatievitch.
« Permettez, » lui dis-je, « encore une observation. Comme nous voulons nous battre jusqu'à la mort, nous devons faire notre possible pour que ceci reste secret et que nos seconds n'aient aucune responsabilité. Êtes-vous de cet avis ?»«
D'accord, tout à fait. »
Aussi, voici ce que j'ai imaginé. Vous voyez bien, au haut de ce rocher, presque perpendiculaire, une toute petite plateforme. Elle est à peu près à 60 mètres de hauteur, s'il n'y en a pas davantage, et en bas se trouvent des rochers aigus. Chacun de nous se placera à son tour à l'une des extrémités de la plateforme. De cette façon, la plus légère blessure sera mortelle. Ce sera conforme à vos désirs, car nous sommes convenus de nous placer à 6 pas. Ainsi, celui qui sera blessé tombera inévitablement en bas et se brisera en morceaux. Le docteur extraira la balle, et on pourra facilement expliquer cette mort inopinée par un saut mal réussi. Le sort décidera qui devra tirer le premier. Je conclus enfin en déclarant que je ne me battrais pas autrement.
« Je t'en prie, » dit le capitaine en regardant avec expression Grouchnitsky, qui remuait la tête en signe de consentement.
Son visage changeait à chaque instant. Je le mettais dans une pénible situation. En tirant dans les conditions ordinaires, il aurait pu m'atteindre à la jambe, ne me blesser que légèrement, et satisfaire ainsi sa vengeance sans trop charger sa conscience. Mais maintenant, il devait tirer en l'air ou faire de lui un assassin, ou chasser ses viles pensées et s'exposer à moi à un danger égal. Je n'aurais pas voulu être à sa place. À ce moment, il tira le capitaine à l'écart et se mit à lui parler avec beaucoup de feu. Je vis que ses lèvres tremblaient, mais le capitaine se retourna avec un sourire méprisant et dit à Grouchnitsky assez durement
« Tu es un sot, tu ne comprends rien. Allons, messieurs !»
Un étroit sentier gravissait la pente au milieu des broussailles. Des éclats de roches formaient un escalier peu solide, assez semblable à une échelle naturelle. En nous accrochant aux racines, nous parvînmes à grimper. Grouchnitsky marchait devant, derrière lui ses seconds, et puis le docteur et moi.
« Je vous admire, » dit le docteur en me serrant fortement la main. « Laissez-moi vous tâter le pouls. Vous avez la fièvre ? Mais sur votre visage, rien ne paraît. Seulement vos yeux brillent plus ardemment qu'à l'ordinaire. »
Tout à coup, de petites pierres roulèrent avec bruit sous nos pieds. Qu'était-il arrivé ? Grouchnitsky avait bronché. La branche à laquelle il avait voulu se retenir s'était cassée et il aurait roulé jusqu'en bas sur le dos si ses seconds ne l'avaient retenu.
« Prenez garde !» lui criai-je. « Ne tombez pas à l'avance. C'est un mauvais présage. Souvenez-vous de Jules César. »
Enfin, nous atteignîmes le haut du rocher en saillie. La petite plateforme était couverte de sable humide, comme si on l'eût préparée pour un combat. Tout autour, se perdant au milieu des nuages dorés du matin, les sommets des montagnes se groupaient comme un troupeau innombrable, et l'Elbrus s'élevait au sud comme une masse blanche, terminant la chaîne des cimes glacées sur lesquelles des nuages, pareils à des flocons cotonneux, couraient venant de l'Orient. J'allais à l'extrémité de la plateforme et je regardais en bas. C'est tout juste si la tête ne me tourna pas. Là, dans le fond, il faisait sombre et froid comme dans une tombe. Les pointes moussues des rochers arrachés par les orages et le temps attendaient leur proie. La plateforme sur laquelle nous devions nous battre formait presque un triangle régulier. De l'un des angles en saillie, nous mesurâmes 6 pas, et nous décidâmes que celui qui devait subir le premier feu se placerait à l'angle même, le dos tourné au gouffre, et changerait de place avec son adversaire s'il n'était pas tué. J'étais décidé à laisser tous les avantages à Grouchnitsky. Je voulais l'éprouver. Dans son âme pouvait s'allumer une étincelle de générosité, et alors tout s'arrangerait pour le mieux. Mais l'amour-propre et sa faiblesse de caractère devaient triompher de lui. Je voulais me mettre complètement dans le droit de ne pas l'épargner si le sort me favorisait. Qui n'aurait pas pris de telles précautions avec sa conscience ?
Tirez au sort, docteur, dit le capitaine.
Le docteur prit dans sa poche une pièce d'argent et la jeta en l'air.
Pile !
Cria brusquement Grouchnitsky comme un homme qui est réveillé tout à coup par la main d'un ami qui l'avertit d'un danger.
Face !
Dis-je. La pièce tourna sur elle-même et tomba à terre. Tous se précipitèrent sur elle.
« Vous êtes favorisé, » dis-je à Grouchnitsky. « C'est à vous de tirer le premier. Mais souvenez-vous que si vous ne me tuez pas, moi je ne vous manquerai pas. Je vous en donne ma parole d'honneur. »
Il rougit. Il avait honte de tuer un homme sans armes. Je le regardais fixement un instant. Il me sembla qu'il allait se jeter à mes genoux et me demander pardon. Mais comment oser avouer d'aussi lâches desseins? Il lui restait un expédient. C'était de tirer en l'air. Je croyais réellement qu'il le ferait. Une seule chose pouvait l'empêcher. C'était la pensée que je réclamerais un second combat.
« Il est temps, » me dit le docteur en me tirant par la manche. « Si vous ne leur dites pas maintenant que vous connaissez leur projet, tout est perdu. Voyez, ils chargent déjà. Si vous ne voulez rien dire, je vais moi-même. »«
Pour rien au monde, docteur, » lui répondis-je en le retenant par la main. « Vous gâteriez tout. Vous m'avez donné votre parole de ne pas vous en mêler. Qu'est-ce que cela vous fait? Je puis bien mourir, peut-être ?»
Il me regarda avec étonnement. « Ah, c'est autre chose. Seulement, ne vous plaignez pas de moi dans l'autre monde. »
Le capitaine, cependant, chargea les pistolets, en donna un à Grotchnitsky en souriant et en chuchotant quelque chose à son oreille, et me remit l'autre. Je me plaçai à l'angle de la petite plateforme, solidement appuyé avec ma jambe gauche contre la pierre, et me penchant un peu en avant de manière que, si je ne recevais qu'une blessure légère, je pusse ne pas tomber en arrière. Grotchnitsky se plaça devant moi et, au signal donné, commença à lever son pistolet. Ses jambes tremblaient. Il me visa droit au front. Une fureur inexprimable s'alluma dans mon sein. Soudain, il abaissa le canon de son pistolet et, pâle comme un linge, se tourna vers ses seconds.
« Je ne puis, » dit-il d'une voix étouffée.
« Poltron !» lui répondit le capitaine. Le coup parti, la balle m'égratigna le genou. Je fis involontairement quelques pas en avant afin de m'éloigner au plus vite du bord.
« Allons, mon cher Grotchnitsky, je regrette que tu aies manqué ton coup, » dit le capitaine. « C'est à ton tour de te placer. Embrasse-moi, nous ne nous reverrons plus. »
Ils s'embrassèrent. Le capitaine avait toutes les peines du monde à s'empêcher de rire.
« Ne crains rien, » ajouta-t-il en regardant avec finesse Grotchnitsky. « Tout est absurde dans ce monde. La nature est stupide, le destin dindon et la vie ne vaut pas un copec. »
Après ces phrases à effet, dites avec un sérieux de convention, il retourna à sa place. Ivan Ignatievitch embrassa aussi en pleurant Grotchnitsky, et alors il resta seul devant moi. J'ai tâché depuis de m'expliquer les sentiments qui bouillonnaient dans mon âme à ce moment-là. Il y avait le dépit que donne l'amour-propre blessé, le mépris et la colère. Je ne pouvais m'empêcher de penser que cet homme qui maintenant me regardait avec une telle confiance et avec une tranquille audace, 2 minutes avant, sans s'exposer lui-même à aucun danger, aurait voulu me tuer comme un chien. Car si j'avais reçu une blessure plus grave à la jambe, je serais allé rouler inévitablement sur les rochers. J'examinais son visage quelques instants avec beaucoup d'attention, m'efforçant d'y découvrir quelques traces de repentir. Mais il me sembla au contraire le voir dissimuler un sourire.
« Je vous invite à prier Dieu avant de mourir, » lui dis-je alors.
« Ne craignez pas plus pour mon âme que pour la vôtre. Je vous en prie, tirez plus vite. »«
Vous ne voulez pas rétracter vos calomnies ? Vous ne voulez pas me faire des excuses ?
Réfléchissez bien. Votre conscience ne vous reproche-t-elle rien ?»«
Monsieur Petchorin !» me cria le capitaine de dragons. « Vous n'êtes pas ici pour confesser quelqu'un. Permettez-moi de vous le faire remarquer. Finissez au plus vite. Et si contre toute attente quelqu'un allait venir dans le défilé et nous voir ?»«
Bien. Docteur, voudriez-vous venir jusqu'à moi ?»
Le docteur s'avança, pauvre docteur. Il était plus pâle que Grotchnitsky 10 minutes avant. Les paroles suivantes, je les prononçai à dessein, en les scandant à haute voix et d'une manière accentuée, comme on prononce un arrêt de mort. Ces messieurs, sûrement dans leur précipitation, ont oublié de mettre une balle dans mon pistolet. Je vous prie de le charger de nouveau et avec soin.
« Ce n'est pas possible !» cria le capitaine. « Cela n'est pas possible. J'ai chargé les deux pistolets. Est-ce que la balle du vôtre aurait glissé dehors ? Ce n'est pas ma faute, mais vous n'avez pas le droit de le charger de nouveau. » « Vous n'en avez pas le droit. C'est entièrement contraire aux règles du duel. Je ne le permettrai point. »«
Bien, dis-je au capitaine. S'il en est ainsi, je me battrai avec vous dans les mêmes conditions. » Il s'arrêta embarrassé. Grudznitski attendait, la tête penchée sur sa poitrine et avec un air consterné.
« Laisse-les faire, dit-il enfin au capitaine qui voulait arracher mon pistolet des mains du docteur. Tu sais bien toi-même qu'ils ont raison. »
En vain, le capitaine lui fit divers signes. Grudznitski ne voulut pas les voir. Cependant, le docteur chargea le pistolet et me le remit. En voyant cela, le capitaine cracha, trépigna des pieds et lui dit
« Mon cher, tu es fou. Si tu te fiais à moi, il fallait m'écouter en tout. C'est ton affaire maintenant. Tu te feras tuer comme une mouche. »
Il s'éloigna en marmottant encore.
« Mais tout cela est entièrement contraire aux règles du duel. »«
Grudznitski, m'écriai-je, il en est encore temps. Rétracte tes calomnies et je te pardonne tout. Tu n'as pas réussi à me tourner en ridicule et mon amour-propre est satisfait. Souviens-toi que nous étions bons amis. »
Son visage s'enflamma, ses yeux brillèrent.
« Tirez, répondit-il. « Je me méprise et vous déteste. Si vous ne me tuez pas, je vous tuerai la nuit dans quelque coin. Il n'y a plus place pour nous deux sur cette terre. »
Je tirai. Lorsque la fumée se fut dissipée, Grudznitski n'était plus sur la plateforme. Une légère colonne de poussière tourbillonnait au bord de l'abîme. Tous poussèrent un grand cri à la fois. « Et finit la comédia, » dis-je au docteur. Il ne me répondit point et se retourna avec effroi. Je haussai les épaules et saluai les seconds de Grudznitski. En arrivant en bas du sentier, j'aperçus entre les pointes de rochers le cadavre sanglant de mon adversaire. Malgré moi, je fermai les yeux. Je détachai mon cheval et repris au pas le chemin de ma demeure. J'avais sur le cœur comme un rocher. Le soleil me semblait pâle et ses rayons ne me réchauffaient pas. Avant d'arriver au village, je tournai à droite et suivis le défilé. La vue d'un homme m'aurait été pénible. Je voulais être seul. Abandonnant mes rênes, la tête penchée sur ma poitrine, je marchais longtemps. J'arrivais enfin dans un lieu qui m'était tout à fait inconnu. Je fis faire volte-face à mon cheval et me mis à chercher mon chemin. Déjà le soleil baissait lorsque j'arrivai à Kislavodsk, épuisé de fatigue ainsi que mon cheval. Mon domestique me dit que Werner était venu me donner deux billets, l'un de ce dernier et l'autre de Viera. Je décachetai le premier, il contenait les mots suivants. Tout s'est arrangé, on ne peut mieux. Le corps est arrivé en bas tout mutilé. La balle a été extraite de la poitrine. Tout le monde est convaincu que sa mort est due à un malheureux accident. Seulement, le commandant, qui avait eu connaissance de votre querelle, a secoué la tête, mais n'a rien dit. Il n'y a aucune preuve contre vous et vous pouvez dormir tranquille. Si cela vous est possible. Adieu.